message que je voudrais vous apporter ce matin, il est dans la continuité de ce que nous avons déjà vu jusque-là. Donc, du livre de Daniel, nous resterons sur le chapitre 2. Et pour rappel, nous avons vu la dernière fois que le roi Nebuchadnezzar, n'ayant pas trouvé l'explication de ses rêves auprès des astrologues, magiciens, enchanteurs et chaldéens du royaume, ordonna la décapitation de tous les sages en Babylonie. Une ordonnance de mise à mort de tous les sages du royaume. Mais nous avons vu également que Daniel et ses compagnons prièrent Dieu qui révéla l'explication du cauchemar du roi. Alors ce matin, voici le titre de mon message, à savoir le sens du cauchemar du roi le plus puissant de toute la terre. Nous verrons donc ce matin le sens donné par Daniel au songe que le roi avait eu. Mais avant, je vous invite à lire donc quelques textes, donc du chapitre 2 du livre de Daniel. Et donc, je vous invite à lire les versets 25 à 30. Alors, je lis Daniel 2, 25-30. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Je m'arrêterai donc là. Ici, on réalise le test du roi et l'humilité de Daniel. Le roi inflige un test à Daniel. On mesure encore une fois la détresse du roi, car il tenait absolument à retrouver la paix, le repos du sommeil, et aussi connaître enfin les raisons de cette agitation. Pour cela, le roi ne prend aucun risque, de la même manière que les astrologues et autres magiciens furent sondés. Daniel est passé par le même filtre. C'est ce que nous voyons au verset 26. C'est le roi qui pose la question. es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Le roi a posé la même question au mage qui était venu à sa rencontre. « Es-tu capable de connaître le songe ?» Évidemment, le roi, il connaissait le songe. Maintenant, c'est un test. Êtes-vous capable de me dire le songe? Si oui, je saurai si la réponse que vous donnerez est véritable. Ils sont de la même manière Daniel. D'emblée, Daniel commence par disculper ceux qui l'ont précédé chez le roi. Verset 27, que dit Daniel à propos de ce songe? Il dit, c'est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et le devin ne sont pas capables de découvrir au roi. Souvenons-nous, lorsque Daniel a reçu Arioch, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il ne faut pas que le roi sacrifie les mages du royaume. C'était sa première préoccupation, il ne s'est pas soucié de lui. Il s'est soucié d'autrui. Et de la même manière, c'est ce qu'il fait devant le roi. Ce n'est pas son sort qu'il voit en premier, il voit le sort des sages du royaume. Ils ne sont pas capables de découvrir au roi ce songe. Lui non plus n'en est pas capable. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Quelle humilité! Lui non plus, il n'est pas capable. Il n'est pas venu devant le roi en se disant être au-dessus de tous. C'est le sauveur, c'est moi qui arrive, je sais tout. Non. Moi non plus, je n'en suis pas capable. Qui donc? Dans les cieux, il y a un Seigneur, Dieu. Lui, oui, c'est lui qui révèle les secrets. Humblement, j'ai noté, Daniel décrit le songe du roi. Dieu lui en fait connaître ce qui adviendra à la suite des temps. Humilité. Ainsi, il ne se voit pas comme ayant une sagesse au-dessus des autres, mais comme un faible instrument dans la main de l'Éternel. Verset 30. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Voilà la raison. Ce n'est pas pour ma gloire personnelle. Non. C'est pour que l'explication soit donnée au roi. Alors j'ai noté ici, à travers le témoignage de Daniel, humilité et compassion. L'ombre des biens à venir qui a été manifestée par Christ, qui en est le modèle. Difficile, hein, de prendre cette posture après cette révélation. Daniel est resté humble. Humble et plein de compassion. plein de compassion pour tout un ensemble de sages qui étaient voués à la mort certaine. Quel était donc ce songe du roi? On va beaucoup lire notre Bible ce matin et on voit la suite, donc dans les versets 31 à 36. Donc la lecture sera également projetée. Verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout, devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été, le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Venons-en ainsi à la révélation du songe, dans les versets 31 à 36. Cette description du songe, elle est structurée en deux parties. La première partie parle d'une gigantesque statue dont la base est fragile. Les versets 31 à 33. Une statue terrible, gigantesque. Une statue faite de métaux de valeur décroissante font craindre au roi que lui et son empire sont destinés à subir un déclin progressif, voire finir par s'effondrer. Lui, d'ailleurs, ou son empire, ou les deux. Voilà comment le roi percevait cette image. Deuxième phase, une pierre minuscule qui détruit la statue et la remplace. Versets 34 à 36. J'ai noté, on comprend pourquoi Nebuchadnezzar perd le sommeil. Non seulement il semble destiné lui-même à perdre le pouvoir, mais son empire semble destiné à être détruit et remplacé par un pouvoir minuscule. En effet, on réalise à quel point le roi est troublé. Que deviendra cet empire? Que deviendra-t-il? Qui plus est, il sera remplacé par un pouvoir moindre que le mien. Cependant, ce minuscule pouvoir deviendra miraculeusement ce que Nebuchadnezzar avait rêvé pour son empire, à savoir un empire qui soit universel et éternel. Voilà ce qu'il avait pensé de son empire. Mais non, il sera remplacé par un autre, minuscule certes au départ, mais qui est appelé à être universel et éternel. Qu'en est-il précisément de ce que Dieu a révélé à Daniel? C'est ce que nous allons examiner maintenant à travers les versets suivants, à savoir les versets 37 à 45. Je lis. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Les événements rapportés ici peuvent être découpés également en deux étapes. Première étape, on y voit trois empires aux caractères différents qui succéderont à l'empire de Nebuchadnezzar. C'est les versets 37 à 43. Trois empires, des caractères différents qui vont supplanter le royaume babylonien. L'interprétation donnée par Dieu à Daniel est beaucoup plus précise que ne le pressentait le roi, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelle précision ! La statue aux quatre métaux différents représente à la fois Nebuchadnezzar et trois royaumes qui vont lui succéder. Ces royaumes seront décrits plus en détail au chapitre 7, 8 et 11 que nous verrons par la suite. Selon la majorité des interprètes anciens et actuels, ces autres visions et le cours de l'histoire ultérieure suggèrent qu'il s'agit premièrement de l'empire médo-perse, qui est clairement nommé dans le chapitre 8, au verset 20, de l'Empire grec, également clairement nommé, Javan, chapitre 8, verset 21, et de l'Empire romain, mais le nom ne paraît pas clairement dans l'écriture. Voilà les trois empires dont il est question ici. Comme Daniel l'a rapporté, la tête d'or représente Nebuchadnezzar lui-même, qui effectivement a régné de 605 à 552 avant Jésus-Christ sur l'empire babylonien. Cet empire dominera ensuite jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. Là, vous avez cet empire. Donc, vous voyez, qui s'étendait depuis l'Égypte, hein, depuis la mer Rouge, depuis la Méditerranée, jusqu'au golfe Persique. Donc, d'est, du moins d'ouest en ouest, et puis du nord au sud. Donc, depuis Urartu jusqu'en Arabie. Tout un empire qui a dominé le monde. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que, comme Daniel l'a précisé, les pouvoirs immenses de Nebuchadnezzar lui ont été accordés par le Dieu d'Israël. Verset 37. L'Écriture nous le confirme. Il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité. Ses pouvoirs ont été accordés au roi par Dieu lui-même. Immense pouvoir. Le règne du roi Nebuchadnezzar. Verset 39, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. La poitrine et les bras en argent représentent ici l'empire médo-perse, que nous retrouvons aussi dans le chapitre 6 et dans le chapitre 8, qui spécifie clairement l'avènement de l'empire médo-perse. Décrit donc également très en détail dans ces chapitres 7 et 8. Il a dominé de 539 à 331 avant Jésus-Christ, cet empire médo-perse. Et comme Daniel l'a expliqué, effectivement, donc, c'était un empire plus étendu à la fois que le premier et que les deux suivants, mais il sera néanmoins moindre que l'empire babylonien. Étendu certes, mais moindre que l'empire babylonien. Pourquoi ? En effet, malgré sa puissance militaire supérieure, l'autorité personnelle de l'empereur sera inférieure. C'est ce que Daniel rapporte au chapitre 6 et au verset 15. Voilà un peu l'étendue de l'empire médo-perse entre 537 et 440 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, un empire beaucoup plus étendu que l'empire babylonien, qui allait évidemment de la Macédoine à l'Égypte, et évidemment qui englobait l'empire babylonien. Verset 39, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. L'avènement d'un troisième royaume. Le ventre et les cuisses d'airain représentent ici ce troisième royaume qui est l'empire grec, décrit également plus en détail dans les chapitres 7, 8 et 11. L'avènement de l'empire grec, justement conduit par Alexandre le Grand, qui vaincra les Mèdes et les Perses lors d'une série de batailles en 332 avant notre ère, Alexandre le Grand. En seulement 10 ans, il étendra son empire de la Grèce à l'Égypte et à l'Inde. Cet empire dominera de 331 à 146 avant Jésus-Christ et survivra à la mort subite de Alexandre le Grand à seulement 33 ans. Les historiens spéculent quant à la mort d'Alexandre le Grand. A-t-il été empoisonné? On ne sait pas. Mais voilà, à 33 ans, ce jeune empereur a conquis le monde. J'ai retrouvé là une fresque, une mosaïque, pardon, d'Alexandre le Grand, en pleine bataille contre le roi de Perse, Darius III. Donc on peut retrouver, hein, donc au niveau historique, donc des preuves donc, de son règne et de sa domination sur le monde. Donc voilà un peu l'étendue de son empire. Donc toutes les zones ici, donc cerclées en rouge, donc représentent un peu l'empire d'Alexandre le Grand. Donc de la même manière, hein, donc c'est l'Afrique du Nord, l'Égypte, en particulier la Macédoine, la Mésopotamie, Babylone, la Carmanie. Donc vous voyez, toutes ces régions donc, étaient sous l'autorité d'Alexandre le Grand. Versets 40 à 43. Les jambes de fer représentent ici l'Empire romain, dont la Judée fera partie à partir de 63 avant Jésus-Christ, et qui dominera de 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 ou 5 siècles après Jésus-Christ. Le mélange impossible de fer et d'argile représente ici la tentative vouée à l'échec de marier des tendances opposées. En particulier, justement, la puissance militaire de l'Empire romain et sa faiblesse morale. Oisiveté, luxe, débauche sexuelle et j'en passe. Le mélange des genres. Et aussi les alliances toutes humaines. Donc littéralement, le mélange de semences. S'agissait-il des mariages mixtes? On ne le sait pas, mais littéralement, c'est ce que ça veut dire, le mélange de semences. Voilà des éléments qui ont été à l'origine de la faiblesse de l'Empire romain. Ici, vous avez une carte donc, de l'Empire romain au début de notre ère. Donc, comme vous le voyez, c'est toute l'Afrique du Nord, Carthage, Alexandrie, Memphis en Égypte, l'Espagne, la Gaule, évidemment l'Italie, la Macédoine, l'Asie, la Mésopotamie. Donc vous voyez un peu comment l'Empire romain a dominé le monde. Deuxième phase. Il est indiqué que par la suite, tous ces empires que nous avons vus seront anéantis et remplacés par le royaume, lequel sera universel et éternel, le royaume du Dieu vivant. C'est ce qui est donc décrit et rapporté dans les versets 44 à 45. Dans cette révélation, la petite pierre est sans aucun doute le Messie, le Fils de Dieu et Fils de l'homme, clairement précisé par Daniel dans le chapitre 7, au verset 13 à 14. C'est Christ, l'avènement de notre Seigneur, qui détruira tous ces royaumes au-delà de leur puissance et qui régnera éternellement. J'ai noté que ce royaume, au début, bien plus faible que les royaumes de ce monde, se répandra progressivement, comme le souligne Marc, chapitre 4, versets 30 à 32, et deviendra universel et éternel. Pour autant, Daniel ne fait pas la distinction entre l'inauguration discrète du royaume de Dieu lors de sa première venue, en toute humilité, avec Christ, et son établissement visible lors de sa deuxième venue, en puissance et en gloire. Daniel ne fait pas cette distinction, mais il parle clairement de la venue de Christ pour établir d'abord son royaume millénaire et ensuite éternel. Voilà la vision de Daniel. Et Daniel, justement, de conclure, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le roi reconnut la grandeur du Dieu d'Israël. Pour autant, était-il touché par la grâce? Était-il convaincu? Hélas, non. La suite du texte nous le révélera. Mais il a néanmoins capitulé, reconnu que l'explication du songe était véritable. Il l'a reconnu. Daniel et ses compagnons furent alors promus à de grandes responsabilités dans le royaume. Pour plus de détails, je vous invite donc à lire les versets 46 à 49. Ce texte me paraît extraordinaire. Nous avons entre nos mains la parole de Dieu, la parole éternelle et vivante. Nous avons toute l'histoire de l'humanité entre nos mains. Quelle grâce! Du commencement à la fin. Et nous voyons les choses se dérouler devant nos yeux. Le XXe siècle a connu l'explosion d'un royaume dont on pensait indestructible. L'Union des républiques socialistes russes, on l'a vu. Donc, voyez-vous, l'histoire est en marche et Dieu ne se réunit pas. Nous voyons sa parole vivante se réaliser au quotidien. Et pour conclure, j'ai noté que nous pouvons louer Dieu de ce qu'il révèle dans la Bible, non seulement qu'il connaît l'avenir, mais qu'il en décide lui-même selon un merveilleux plan qu'il a conçu avant la création du monde et qu'il conduira jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Dieu est infaillible. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen.